Chapitre 9. Ce que l'humanité admire dans l'homme, vraiment moral, c'est sa force, c'est l'exubérance de la vie qui le pousse à donner son intelligence, ses sentiments, ses actes, sans rien demander en retour. L'homme fort de pensée, l'homme qui déborde de vie intellectuelle, cherche naturellement à se répandre. Penser sans communiquer sa pensée aux autres n'aurait aucun attrait. Il n'y a que l'homme pauvre d'idées qui, après en avoir déniché une avec peine, la cache soigneusement pour lui apposer plus tard l'estampille de son nom. L'homme fort d'intelligence déborde de pensées. Il les sème à pleine main. Il souffre s'il ne peut les partager, les semer aux quatre vents. C'est là sa vie. Il en est de même pour le sentiment. Nous ne sommes pas assez pour nous-mêmes, nous avons plus de larmes qu'il n'en faut pour nos propres souffrances, plus de joie en réserve que n'en justifie notre propre existence. A dit Guyot, résumant ainsi toute la question de moralité en quelques lignes si justes prises sur la nature. L'être solitaire souffre, il est pris d'une certaine inquiétude parce qu'il ne peut partager sa pensée, ses sentiments avec les autres. Quand on ressent un grand plaisir, on voudrait faire savoir aux autres qu'on existe, qu'on sent, qu'on aime, que l'on vit, qu'on lutte, que l'on combat. En même temps, nous sentons le besoin d'exercer notre volonté, notre force d'action. Agir, travailler, est devenu un besoin pour l'immense majorité des hommes. Si bien que lorsque des conditions absurdes éloignent l'homme ou la femme du travail utile, ils inventent des travaux, des obligations futiles et insensées pour ouvrir un champ quelconque à leur force d'action. Ils inventent n'importe quoi, une théorie, une religion, un devoir social, pour se persuader qu'ils font quelque chose d'utile. Quand ils dansent, c'est pour la charité. Quand ils se ruinent par leur toilette, c'est pour maintenir l'aristocratie à sa hauteur. Quand ils ne font rien du tout, c'est par principe. On a besoin d'aider autrui, de donner son coup d'épaule aux coches qu'entraîne péniblement l'humanité, en tout cas en bourdonne autour, dit Guyot. Ce besoin de donner son coup d'épaule est si grand qu'on le retrouve chez tous les animaux sociables, si inférieurs qu'ils soient. Et toute cette immense activité qui chaque jour se dépense si inutilement en politique, qu'est-ce sinon le besoin de donner son coup d'épaule aux coches ou de bourdonner autour? Certainement, cette fécondité de la volonté, cette soif d'action, quand elle n'est accompagnée que d'une sensibilité pauvre et d'une intelligence incapable de créer, ne donnera qu'un Napoléon Ier ou un Bismarck, des toqués qui voulaient faire marcher le monde à rebours. D'autre part, une fécondité de l'esprit, dénuée cependant de sensibilité bien développée, donnera ses fruits secs, les savants, qui ne font qu'arrêter le progrès de la science. Et enfin, la sensibilité non guidée par une intelligence assez vaste produira ces femmes prêtes à tout sacrifier à une brute quelconque sur laquelle elles versent tout leur amour. Pour être réellement féconde, la vie doit l'être en intelligence, en sentiment et en volonté à la fois. Mais alors, cette fécondité dans toutes les directions, c'est la vie, la seule chose qui mérite ce nom. Pour un moment de cette vie, ceux qui l'ont entrevue donnent des années d'existence végétative. Sans cette vie débordante, on n'est qu'un vieillard avant l'âge, un impuissant, une plante qui se dessèche sans jamais avoir fleuri. Laissons aux pourritures fin de siècle cette vie qui n'en est pas une, s'écrie la vraie jeunesse pleine de sève qui veut vivre et semer la vie autour d'elle. Et chaque fois qu'une société tombe en pourriture, une poussée venue de cette jeunesse brise les vieux moules économiques, politiques, moraux pour faire germer une vie nouvelle. Qu'importe si un tel ou tel autre tombe dans la lutte, la sève monte toujours. Pour lui, vivre, c'est fleurir, quelles qu'en soient les conséquences. Il ne les regrette pas. Mais, sans parler des époques héroïques de l'humanité, et en prenant la vie de tous les jours, est-ce une vie que de vivre en désaccord avec son idéal? De nos jours, on entend dire souvent que l'on se moque de l'idéal. Cela se comprend. On a si souvent confondu l'idéal avec la mutilation bouddhiste ou chrétienne. On a si souvent employé ce mot pour tromper les naïfs que la réaction est nécessaire et salutaire. Nous aussi, nous aimerions remplacer ce mot « idéal » couvert de tant de souillures par un mot nouveau plus conforme aux idées nouvelles. Mais, quel que soit le mot, le fait est là. Chaque être humain a son idéal. Bismarck a le sien, si fantastique qu'il soit. Le gouvernement par le fer et le feu. Chaque bourgeois a le sien, ne serait-ce que la baignoire d'argent de Gambetta, le cuisinier trompette et beaucoup d'esclaves pour payer trompette et la baignoire sans trop se faire tirer l'oreille. Mais à côté de cela, il y a l'être humain qui a conçu un idéal supérieur. Une vie de brute ne peut pas le satisfaire. La servilité, le mensonge, le manque de bonne foi, l'intrigue, l'inégalité dans les rapports humains le révoltent. Comment peut-il devenir servile, menteur, intrigant, dominateur à son tour? Il entrevoit combien la vie serait belle si des rapports meilleurs existaient entre tous. Il se sent la force de ne pas manquer, lui, à établir ses meilleurs rapports avec ceux qu'il rencontrera dans son chemin. Il conçoit ce que l'on a appelé l'idéal. D'où vient cet idéal? Comment se façonne-t-il par l'hérédité d'une part et les impressions de la vie d'autre part? Nous le savons à peine. Tout au plus pourrions-nous en faire, dans nos biographies, une histoire plus ou moins vraie. Mais il est là, variable, progressif, ouvert aux influences du dehors, mais toujours vivant. C'est une sensation, inconsciente en partie, de ce qui nous donnera la plus grande somme de vitalité, la jouissance d'être. Eh bien, la vie n'est vigoureuse, féconde, riche en sensations, qu'à condition de répondre à cette sensation de l'idéal. Agissez contre cette sensation, et vous sentez votre vie se dédoubler, elle n'est plus une, elle perd de sa vigueur. Manquez souvent à votre idéal, et vous finissez par paralyser votre volonté, votre force d'action. Bientôt, vous ne retrouvez plus cette vigueur, cette spontanéité de décision que vous vous connaissiez jadis. Vous êtes un être brisé. Rien de mystérieux là-dedans. Une fois que vous envisagez l'homme comme un composé de centres nerveux et cérébraux, agissant indépendamment. Flottez entre les divers sentiments qui luttent en vous, et vous arriverez bientôt à rompre l'harmonie de l'organisme, vous serez un malade sans volonté. L'intensité de la vie baissera, et vous aurez beau chercher des compromis. Vous ne serez plus l'être complet, fort, vigoureux que vous étiez lorsque vos actes se trouvaient en accord avec les conceptions idéales de votre cerveau.